Liturgie de la parole de ce mardi 10 février 2026, mardi de la 5e semaine du temps ordinaire, année Père. Vierge sage, elle a rejoint le Christ. Parmi les saints du ciel, elle resplendit comme le soleil. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Scolastique, Vierge, sœur de Saint Benoît. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions, fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut, écouter la douceur de ton amour, toi qui es vivant et glorieux, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Au 7e chapitre du 1er, au 13e verset. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des carafes de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien les commandements de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, mardi de la 5e semaine du temps ordinaire, année Père, aujourd'hui le 10 février, nous célébrons la mémoire des saintes scolastiques. Sœur de Saint Benoît de Nursie, Saint Benoît est bien connu, le fondateur de l'ordre des bénédictins. Il avait une sœur jumelle qui l'avait rejoint, non loin du monastère où se trouvait Saint Benoît, au Mont Cassin. Et une fois l'an, Sainte Scolastique rencontrait son frère Saint Benoît. Ils avaient des liens biologiques, mais surtout des liens spirituels. Séduit par le dévouement de son frère Benoît, Scolastique, elle aussi deviendra, va entrer au monastère et elle deviendra la première moniale bénédictine des gens qui cherchaient le Seigneur, nuit et jour dans la prière, mais aussi dans une consécration sans faille au Seigneur. Aujourd'hui, dans la première lecture, cette recherche de Dieu, typique de saint, typique de saint Benoît, typique de sainte scolastique, nous le voyons aussi à travers notamment Salomon. Salomon qui vient au temple, le jour de la consécration du temple, le temple consacré. Pourquoi le temple? Parce que Dieu voudrait que, le peuple voudrait que Dieu habite avec lui. Dieu au milieu de son peuple, c'est ça le temple. Et dans le temple, au Naos, dans le Saint des Saints, nous l'avons suivi hier, ils avaient déposé, ils avaient installé l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, la recherche de Dieu. C'est depuis l'Ancien Testament. Le Salomon fait la prière. Il reconnaît que le temple ne peut pas contenir Dieu. Le temple, c'est seulement les noms, les lieux où se trouvent, où reposent les noms de Dieu. Mais Dieu est plus grand que le temple. Un roi, 8 de 22 à 23, puis de 27 jusqu'à 30. La prière de Salomon au temple. Seigneur Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut, dans les cieux, ni sur la terre, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs. Quand ils marchent devant toi de tout leur cœur, est-ce vraiment Dieu qui habiterait sur la terre? Le ciel et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir. Et comment un temple peut-il contenir Dieu? Dieu est grand, la grandeur de Dieu. Salomon s'en rend compte. Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que nos cœurs. Parfois, nous voulons enfermer Dieu dans nos petits calculs. Quand nous prions, nous voudrions qu'il fasse ce que nous voulons. Nous voudrions que Dieu suive notre volonté, mais il est plus grand. Il est plus grand. C'est nous qui devons nous incliner devant lui, devant sa sainte volonté. Il est plus grand que nos calculs. Il est plus grand que notre entendement. Voilà pourquoi ce qu'il fait parfois échappe à notre entendement. Il nous conduit parfois par des chemins que nous estimons redoutables. Mais parfois c'est par ces chemins, parfois chemin de souffrance, chemin difficile, c'est à travers ce chemin que Dieu peut nous sauver, à travers la maladie, à travers la prison, à travers tant d'autres épreuves de la vie qui sont redoutables. Dieu nous conduit parfois par ces chemins difficiles, mais c'est pour notre bien, pour nous sauver. C'est seulement plus tard. Plus tard, on peut se rendre compte que non, Dieu est Dieu. Il m'a fait passer à travers des épreuves. Et je me demandais si réellement Dieu est avec moi. Or, il a voulu que ça soit ainsi. Une maladie. Le fait de passer en prison, c'est dur, c'est terrible. Mais Dieu, comme nous le disons souvent, écrit droit avec des lignes courbes, parce qu'il est grand. C'est difficile pour nous de saisir sa pensée, de saisir ce qu'il veut, c'est seulement plus tard. C'est plus tard qu'on se rend compte que non, Dieu est Dieu. Il a voulu que je passe par ce chemin de la souffrance, des épreuves terribles, pour qu'il puisse me purifier, pour que je puisse le rencontrer davantage. Le fait que le temple est inauguré aura des conséquences dans la vie des gens. Pour aller au temple, il faut être pur. Le peuple juif est très attentif à la pureté. On ne peut pas aller au temple si on n'est pas pur. On va d'abord exiger la pureté au prêtre. Les prêtres qui officient au temple doivent être purs. Ils vont développer toute une tradition autour de la pureté rituelle qui est telle que les prêtres ne peuvent même pas s'approcher d'un cadavre. Parce que si le prêtre touche le cadavre, il devient impur. Et sa purification prendra plus ou moins un mois. S'il touche le cadavre, il ne peut plus entrer au temple. Il ne peut plus travailler, prester, officier au temple. Et ça va prendre un mois de purification à travers des prières, à travers des rites pour se purifier. Beaucoup plus tard, ces traditions sur la pureté vont s'appliquer aussi au peuple en général. Ce ne sera pas seulement le prêtre qui doit observer la pureté rituelle, mais aussi le peuple en général. Et c'est de cela qu'il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc 7, de 1 à 13. Les pharisiens, qui sont très fidèles à ces pratiques qui visent à promouvoir la pureté, pureté rituelle, quand ils sortaient, en revenant à la maison, il fallait procéder par ce qu'on appelle les ablutions rituelles. Il ne s'agit pas de laver des mains pour des raisons hygiéniques, mais pour une raison religieuse, pour la pureté rituelle. Et il s'agit de laver les mains jusqu'au coude en prononçant des prières. Il y en a qui étaient plus zélés, ils lavaient les mains jusqu'au niveau des épaules. Pourquoi? Parce que le fait d'aller au marché, le fait d'aller à la cité, il se peut que vous avez rencontré des païens qui sont impurs, et pas seulement des païens. Peut-être vous avez rencontré un juif qui est impur et vous devenez vous aussi impur. On ne sait jamais. Voilà pourquoi, avant de se laver, le repas est sacré. Avant de manger, il faut se laver les mains. Rituellement, c'est-à-dire ce n'est pas pour des raisons hygiéniques. Les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, se lavent les mains pour des raisons hygiéniques, parce qu'ils mangeaient avec les mains, il n'y avait pas de couvert. Mais ce que les pharisiens et les scribes exigent, ce n'est pas se laver les mains pour des raisons hygiéniques, mais ils voudraient que les disciples de Jésus eux aussi lavent les mains en faisant des ablutions rituelles jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules pour se purifier. Cette vision de la pureté est critiquée par Jésus. D'abord, ça crée un dualisme social. Dans la société, il y a des bons et des mauvais. Il y a des purs et des impurs. Et donc, si je rencontre une personne qui est impure, je deviens moi aussi impur. Par conséquent, il y a la suspicion. Il y a des gens que je ne peux pas approcher. Il y a des maisons que je ne peux pas fréquenter. Voilà pourquoi Jésus conteste cela. On ne peut pas vivre comme cela, en considérant l'autre comme étant impur. Moi, je suis pur, l'autre est impur. Moi, je suis juste, l'autre est injuste. Jésus ne veut pas de ça. Ce serait un regard de jugement qu'on pose sur l'autre. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus d'ablution rituelle, mais quel regard posons-nous sur les autres quand nous considérons les autres comme étant moins bons, comme étant des pécheurs, comme étant des personnes qui iront à l'enfer? C'est ça le pharisaïsme d'aujourd'hui. Quand nous nous estimons bons, les autres sont mauvais. Nous nous estimons dignes du règne de Dieu, dignes du paradis. Les autres n'en sont pas dignes. Ce regard de jugement, ça c'est les résidus du pharisaïsme aujourd'hui. Chers auditeurs, chers internautes, Jésus propose que nous puissions changer notre regard sur les autres. Posons sur les autres un regard d'amour. Parce que ce qui est important, c'est pas la purification extérieure, mais l'amour. Le cœur doit être purifié. On purifie le cœur par l'amour, quand on aime tout le monde. Dieu a créé tous les humains. Et donc, tout homme est capable de Dieu. Le respect de l'autre, poser sur l'autre un regard qui ne juge pas, qui ne minimise pas, qui ne méprise pas. Un regard d'amour, un regard sincère, un regard de compassion pour ceux qui souffrent. Un regard d'admiration pour ceux qui ont reçu des grâces particulières de la part de Dieu. Un regard tout simplement fraternel. C'est ce que Jésus veut. C'est ainsi que nous pourrons purifier nos cœurs. Nous purifions nos cœurs par le sacrement de pénitence et réconciliation. Nous purifions nos cœurs en aimant Dieu, en aimant les prochains. Et si nos cœurs sont purifiés, alors nous pourrons rencontrer Dieu. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Vous voulez voir Dieu, vous voulez voir des miracles dans votre vie, purifiez votre cœur, car heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.